Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. De nouveau ensemble, ce soir, dans nos lectures en liberté, pour la suite du récit de Henri Calais, Les Grandes Largeurs. Je me souviens très bien du temps où les Champs-Élysées étaient presque déserts et sombres, dès que le soir tombait. Il n'y avait qu'un seul cinéma, quelques hôtels luxueux, un café, un petit théâtre. Cette avenue était vouée à l'automobile. Nous nous y rendions le dimanche en grande cohorte processionnaire pour l'admirer de près, sous verre, sans y toucher. Ou le 14 juillet pour applaudir notre armée. Mais en ce qui me concerne, seulement à dater du jour où mon père a quitté ma mère, car il désapprouvait hautement ces manifestations militaires, du moins en actes et en paroles. Je ne serais nullement surpris d'apprendre qu'il a lui aussi un petit drapeau français planté dans le cœur, comme nous tous. Ma faveur allait à la garde républicaine à cheval et plus spécialement aux trompettes avec leurs casques à crinière rouge. C'est au théâtre Femina que j'ai eu le bonheur de voir la Argentina. Et dans ma période de dandysme, je me suis risqué quelquefois au Palais des Glaces. J'ai été aussi au bar du Carlton avec une femme du monde, plus très jeune, qui buvait des cocktails. Mais tout cela ne pouvait guère durer. C'était très au-dessus de mes moyens. Je portais une bague en or, garnie d'un brillant et de deux saphirs, et je crois bien qu'en buvant ces cocktails, je tenais le petit doigt en l'air. Récemment, j'ai assisté à un défilé singulier. Des agents de police en grande tenue, précédés d'une fanfare, escortés de motocyclistes, se rendaient à l'Arc de Triomphe. Des flics montaient vers la gloire. C'était inattendu. Il est vrai que tout le monde y va à cette heure. C'est après cela que j'ai entendu une corpulente provinciale demander au monsieur qui l'accompagnait « Mais qu'est-ce que c'est que cette grande pierre pointue ?»« C'est un truc, lui a-t-il répondu, qui a été ramené d'Égypte par Napoléon. C'est l'obélix. »« Ah ?» Donnez-vous donc du mal pour illustrer votre patrie de toutes les manières, coupez-vous en quatre, faites couper aussi en petits morceaux 100 ou 200 000 de ces enfants, arrosez le tout de sang, servez chaud. Et voilà qu'un siècle plus tard, une bonne femme ignorante remet tout en question. C'est proprement décourageant. Je puis évoquer des souvenirs plus reculés encore, se rattachant aux Champs-Élysées. Au vrai, ce sont les souvenirs paternels auxquels je n'ai pris qu'une très petite part. Je n'avais pas 2 ans. Il nous est advenu bien des mésaventures sur cette avenue. Mais d'abord, pourquoi traînions-nous si souvent par là, mon père et moi, puisque nous demeurions à la Villette? Était-il lui aussi comme affriandé par le luxe? Il donnait comme prétexte que l'air était meilleur à l'Étoile que rue de Tanger, c'est juste. Je le soupçonne cependant d'avoir eu des arrière-pensées. Un après-midi que nous nous baladions, ramassant par-ci par-là un mégot, quel jeu passionnant c'était, il s'est adressé à un monsieur à lourde chaîne de montre qui aérait ses 2 fillettes, et il lui a demandé de quoi acheter un ticket de métro pour rentrer à la Villette. Il devait être fatigué. « Ce n'est pas par ici que vous trouverez du travail, » lui a dit le monsieur. « Je ne vous ai pas demandé du travail, » lui a répliqué justement mon père. Alors le monsieur lui a tendu une pièce de 2 sous. Il a vu que mon père était sur le point de se fâcher. « Ben, ce n'est pas assez pour m'acheter un cigare !» lui a dit mon père, en lui jetant ses deux sous aux pieds. Et nous nous sommes allés vers la Villette. Il a de l'amour propre, mon père. À sa place, saurais-je me comporter avec une telle dignité? C'est l'hiver où ma mère était malade, j'ai omis de le dire. Mon père avait essayé de vendre des fleurs artificielles chez les modistes et sur les marchés, à 6 sous le piquet, mais on n'en voulait pas. De tout temps, il y a eu de la morte saison dans le commerce qui touche à la parure féminine. Hier soir, rue de Sèvres, dans la presse, à l'heure du dîner, j'ai entendu quelqu'un me dire tout bas « Vous n'auriez pas un ticket de métro, monsieur ?» À quoi pensais-je? Je marchais assez vite, comme font les gens pressés. Pourtant, je ne sais rien de plus inutile que ces allées et venues quotidiennes. Je ne suis espéré nulle part. C'est une femme qui m'avait adressé la parole, mais il m'a semblé reconnaître l'intonation de mon père. Je n'ai pas compris tout de suite. Quand je me suis retourné, elle était déjà loin. J'ai pu tout juste voir qu'elle avait une espèce de bonnet de laine sur les cheveux. Elle était vieille. J'aurais dû courir après elle. Des cigares. Mon père n'en a jamais fumé beaucoup, en dehors de ceux que nous passions pour lui en contrebande à Kévy. Il avait voulu le prendre de haut avec le gros monsieur des Champs-Élysées. On ne me croirait pas si je disais qu'il a toujours aimé les mégots. Il y a eu certainement une époque où, comme tout le monde, il a su apprécier le bon tabac frais. C'est progressivement qu'il s'est mis à raffoler des mégots. Il leur trouve une saveur délectable. Oh, il ne refuse pas une cigarette toute faite, mais il est évident qu'elle lui paraît un peu fade. C'est une déformation du goût, pas autre chose. Actuellement, il a 2 fournisseurs de mégots, le balayeur de la rue Serpollet et Louise, une amie de toujours. Le balayeur n'est qu'un intermédiaire. Un intermédiaire de bonne volonté. Entre mon père et le barman du Manitoba, un établissement chic de la rue. À jour fixe, le barman remet au balayeur un petit paquet joliment ficelé destiné à mon père, que d'ailleurs il ne connaît pas. À vrai dire, les mégots du Manitoba ne sont pas excellents. Trop d'anglaises et d'américaines, dit mon père. Mais en les mélangeant avec ceux de l'Athénée, il parvient à en faire une mixture passable. Les mégots de l'Athénée lui sont fournis de façon tout aussi régulière par Louise, qui est une femme de ménage dans ce théâtre. Elle est, pour ainsi dire, à la source. Je suis persuadé que l'opération du triage procure déjà à mon père une vive satisfaction. Bouts de cigare d'un côté, tabac orientaux de l'autre. Les bouts de cigare, il les coupe très finement au moyen d'une lame de rasoir. Il en est arrivé à pouvoir différencier presque à coup sûr les mégots des soirs de général de ceux des soirées ordinaires, à leur seule qualité. Lorsque le sac contient beaucoup de cigarettes à demi consumées seulement et marquées de rouge à lèvres, il dit à Louise « Tiens, vous avez eu une première cette semaine. » Il est rare qu'il se trompe dans cette déduction. Et par ce détour, ils en viennent à discuter de la pièce. Mon père n'a jamais cessé d'avoir un faible pour le théâtre en général. J'ai déjà dit qu'il avait fait de la figuration dans ses jeunes années. Il a chanté la Marseillaise au gymnase, dans L'ennemi du peuple. Bien entendu, je lui réserve aussi mes mégots. Ils sont minuscules. L'altercation avec le monsieur à chaîne de montre a peut-être eu lieu avenue Dubois et non pas aux Champs-Élysées. Mais ce dont je suis sûr, c'est que la rencontre avec Madame Claxon Potter s'est produite aux Champs-Élysées, durant le même hiver, puisque ma mère était toujours malade. Il était assis sur un banc, me tenant sur ses genoux, lorsqu'une voiture à 2 chevaux s'est arrêtée. Il en est descendu une dame, c'était Madame Claxon Potter. Nous devions à nous deux former un gentil petit tableau. Ils ont causé. Elle lui a conseillé d'envoyer ma mère à l'hôpital Rothschild. Avant de s'en aller, elle m'a mis un louis dans la main. Et elle lui a donné un rendez-vous pour la semaine suivante, au coin de l'avenue Malakoff et de l'avenue Victor Hugo. Pourquoi pas chez elle ? À la date fixée, nous étions à l'endroit convenu, un peu en avance, comme il se doit. On ne fait pas attendre Madame Klaxon Potter. Des écoliers sortaient du lycée Janson. L'un d'eux a donné quelques sous à mon père, d'autres en ont fait autant. C'étaient des garçons élevés dans des traditions de charité. On ne verrait pas cela à Belleville, ni au Petit Montrouge. Mon père n'était pas accoutumé à recevoir l'aumône de la part des enfants. Ce doit être en effet bien humiliant. Il a pris le parti de poser son chapeau par terre en tournant ses regards vers le haut. Les gosses lançaient des pièces de monnaie dans le melon de papa. Encore un jeu intéressant. À quoi voyait-on que nous eussions pu être des mendiants ? Nous devions trancher sur les habitants du quartier par notre maintien, par notre dégaine, par notre manière seule de marcher. On nous reconnaît à 100 pas. Madame Klaxon Potter est venue. Elle a fait des reproches à mon père parce que ma mère n'avait pas voulu aller à l'hôpital Rothschild. Mais elle m'a quand même remis un second louis d'or. Ils ne se sont plus jamais revus. Dans la vie de mon père, cette dame américaine tient un rôle approximatif de fée merveilleuse et bienfaisante. Nous traversions une mauvaise passe, on ne pouvait plus acheter du lait. Pour en sortir, mon père a résolu de frapper un grand coup. Il s'est rendu chez ma marraine, une personne fort riche qui habitait Place des Ternes. À peine entré, il est allé à la fenêtre, il l'a ouverte, il m'a tendu à bout de bras dans le vide. « Il me faut du travail immédiatement », a-t-il dit à la vieille dame, « sinon je le lâche. Cela ne fera qu'un malheureux de moins sur la terre. » Ma marraine lui a trouvé sur l'heure un emploi chez Gobert, le marchand de couleurs. Heureusement, car si elle ne l'avait fait, je m'écrasais sur un trottoir de la place des Ternes. À moins qu'il n'y ait eu un peu de chantage moral dans cette démarche. Tout cela et d'autres choses que je néglige ou que j'oublie expliquent et justifient peut-être le malaise que je ressens aujourd'hui encore dans ces régions. Il ne fait pas bon revenir là où l'on a ramassé des mégots, là où l'on a mendigoté plus ou moins consciemment à 2 ans. J'ai le sentiment de n'être pas en règle, qu'il me manque un visa. Je m'attends confusément à ce qu'une dame me glisse une pièce de 20 francs dans la main. Madame Klaxon Potter.
Un petit ghetto, une station de métro, entourée de bistrots, Pigalle. Grand magasin, atelier de rapin, restaurant pour Rupin, Pigalle. Là, c'est le chanteur des carrefours qui fredonne le succès du jour. Ici, l'athlète en maillot qui soulève les poids de 100 kilos. Hôtel meublé, discrètement éclairé, où l'on ne fait que passer, Pigalle. Et vers minuit, un refrain qui s'enfuit d'une boîte de nuit, Pigalle. L'on y croise des visages communs ou sensationnels. L'on y parle des langages connus à la tour de Babel. Et quand vient le crépuscule, c'est le grand marché d'amour, c'est le coin où déambulent ceux qui prennent la nuit pour le jour. Girls et mannequins, gitanes aux yeux malins, qui lisent dans les mains, Pigalle. Clochard, camelot, tenancier de tripots, trafiquant de coco, Pigalle. Petite femme qui vous sourit en vous disant tu viens chérie. Et Prosper qui dans son coin discrètement surveille son gagne-pain. Un petit jet-eau, une station de métro entourée de bistrots, Pigalle. Et vers minuit, un refrain qui s'enfuit d'une boîte de nuit, Pigalle. Pigalle. Une station de métro entourée de bistrots, Pigalle. Sa vie, sa gueule, les gens diront ce qu'ils veulent, mais on m'en vient qu'un seul, Pigalle.
À nouveau, donc, le récit de Henri Calais, Les Grandes Largeurs.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Je ne sais pourquoi je repense souvent à un après-midi du mois d'août 1948. Il y a des jours qui vous restent sur le cœur. Ils sont trop lourds. Je ne sais pas non plus ce qui m'avait conduit aux alentours du Trocadéro. Il faisait très chaud, j'étais amoureux de nouveau. Cela me semble bien loin. C'est presque déjà de l'ancien temps. Tout ensoleillé. Les gens se rafraîchissaient aux terrasses qui occupaient une large bande des trottoirs. On buvait surtout des citrons pressés, des orangeades glacées, de la bière. De ma chaise, je voyais le palais Chaillot. J'aurais pu lire au fronton les pensées de Paul Valéry qui y sont inscrites en lettres d'or. Dans ma jeunesse, j'ai connu le palais du Trocadéro. Le style en était fort étrange, indéfinissable en vérité. Je ne garde en ma mémoire que les contours d'une masse énorme et plutôt chagrinante faite en ce matériau grisâtre qui servait aussi à la construction de grottes en miniature dans les jardinets de banlieue. L'ensemble avait effectivement quelque chose de troglodytique et d'oriental, d'hispano-mauresque en même temps. Les deux tours, vaguement phalloïdes, étaient assez réussies. Le nouvel édifice, plus net, plus propre, mais est-il aussi solide que le précédent, avait été choisi comme siège temporaire de l'ONU. On a dû entendre parler de cet organisme universel qui a remplacé la SDN. Les personnes de ma génération n'ont pas mis d'espoir excessif dans l'ONU. La SDN nous avait déçus une fois pour toutes. N'empêche qu'une petite foule stationnait devant des barrières de bois pour regarder monter en voiture quelques représentants de pays inconnus. Deux immenses drapeaux flottaient sur le toit. Ils étaient d'un bleu déteint d'avance, plus foncé que le ciel par-dessus. C'est peu de temps après qu'un dénommé Gary Davis, une sorte de clochard international, se déclarant citoyen du monde, est venu s'asseoir sur les marches monumentales de ce palais. À cette occasion, nous nous sommes de nouveau emballés. C'était à qui allait déchirer ses papiers d'identité. Tous apatrides. Mais le citoyen du monde a été pourchassé. Il a quitté les rives de la Seine pour aller camper sur le Rhin. Puis, en fin de compte, il a épousé une danseuse acrobatique. L'après-midi dont je parle, il y avait une atmosphère de fête, de vacances. On se serait cru dans une station balnéaire. L'air était doux, balsamique, c'est possible. De biais, on apercevait quelques colonnes de marbre du cimetière de Passy qui surplombent la place et la croix orthodoxe dorée, très ouvragée, de Marie Baskirsteff. Une jeune fille prenait des photos. L'appareil posé à hauteur du sexe, le petit oiseau allait sortir, attention. Le matin même, les journaux avaient annoncé que le gouvernement britannique venait de décider le recensement des hommes et des femmes en cas d'un conflit. On en revenait au point où nous en étions 10 ans auparavant, au temps de la SDN. De grosses voix couvraient le vacarme des moteurs. On appelait par haut-parleur des chauffeurs de diplomates. J'ai soudainement eu l'illusion de vivre dans un lieu et dans des heures qui deviendraient historiques, où l'on palabrait encore sur la paix, où l'on était en paix à boire des rafraîchissements dans des pauses détendues et la tête un peu vide. Il m'a paru qu'il était important que j'observe attentivement tout autour de moi ce décor fragile et provisoire pour que je puisse en reparler plus tard, lorsque la prochaine guerre aurait passé sur nous, nous aurait balayé, quand le palais rasé et reconstruit porterait un troisième nom et qu'il abriterait une nouvelle organisation sous un vocable à trouver, quand le cimetière de Passy aurait peut-être disparu aussi et que les morts seraient morts pour la seconde fois et que l'Europe entière ressemblerait au cimetière de Passy en moins orné, sans aucune croix catholique ni orthodoxe. À moins que je ne sois plus moi-même qu'un squelette parmi d'autres, le cœur à tous les vents, en un lieu imprévisible, mort, mais pas enterré. Les fossoyeurs de la CGT, de FO et de la CFTC, ayant cette fois décrété une grève générale de durée illimitée. Rentrons dans un passé plus souriant. Sur cette colline et dans les environs, il y a eu l'Expo de 1937. Nous étions alors pleins d'optimisme, à exploser. Nous avions, pensions-nous, l'avenir à portée de la main. On aurait pu le caresser. Malheureusement, je n'avais pas beaucoup d'argent en 1937. À ce point de vue, les années n'ont pas de prise sur moi, je reste toujours jeune. Je n'ai pu profiter tout mon sou des plaisirs de cette exposition universelle. Au début, nous avons eu, par l'intermédiaire de mon père, une carte d'un caractère semi-officiel qui nous donnait droit à l'entrée gratuite. Je crois bien que nous avions légèrement falsifié ce document. Et un jour, un gardien zélé nous a confisqué notre carte. N'importe. Nous avions eu le temps d'excursionner longuement parmi toutes les splendeurs des divers pavillons. Il me souvient nettement du pavillon espagnol, où nous étions toujours quelques dizaines de salopards à nous divertir à jeter des sous dans une vaste cuve de mercure qui provenait d'Almacène. Les pièces de monnaie flottaient, et nous nous réjouissions ouvertement à l'idée que les républicains allaient remporter la victoire grâce à nos libéralités. Les manigances frauduleuses que nous devions faire pour pénétrer à l'intérieur de l'enceinte ajoutaient peut-être à notre enchantement. C'était à chaque coup le même trouble lorsque je tendais la carte au contrôleur. Quoi qu'il en soit, il me plaît d'avoir revu rapidement ces années où, sans que nous nous en doutions, nous étions en train de gaspiller ce qui nous restait d'élan. Je n'ai pas dit que mon père occupait un poste dans l'expo, un petit poste. Il était bonisseur au stand juif. C'est un ami qui lui avait procuré cet emploi, non rétribué d'ailleurs, en quelque sorte honorifique. Il travaillait à la commission. On l'avait chargé d'écouler un stock de fleurs de papier ou de tissu appelé la rose de Jéricho. « Demandez la rose de Jéricho, » répétait-il, « la plante qui ne meurt jamais. » C'est ce qu'on lui avait conseillé de dire. Nous nous interdisions de flâner devant son étalage pour ne point le gêner. Il n'a pas fait de bonnes affaires. Les fleurs artificielles ne lui ont jamais réussi. Après que nous avons été dépossédés de notre carte d'invitation, nous sommes allés tous les soirs dans un secteur de l'arrondissement qui était en démolition. Il l'est encore. Du côté de la rue Vandamme, à 2 pas de chez nous, en bordure de la ligne du chemin de fer de l'Ouest. Nous étions là parmi des ruines anticipées, si je puis ainsi dire, avant les bombardements véritables. Par une trouée, nous avions une large perspective sur l'exposition. La tour Eiffel était rougie à blanc. C'était tout bonnement féerique. Pas de gardien soupçonneux, ni rien à débourser. Au surplus, nous avions la conscience tranquille. Nous avons demeuré rue des Acacias avant la guerre de 1914 et après. J'ai été à l'école communale de la rue Saint-Ferdinand. Somme toute, je suis un ternio d'adoption. Il y a bien du changement par là aussi. D'abord, j'ai eu une surprise. La boulangerie-pâtisserie qui se trouve à l'angle de la rue des Acacias et de l'avenue de la Grande Armée, notre boulangerie, ne s'appelle plus la pâtisserie de l'obus. Elle n'a plus de nom. Je le regrette un peu. Il est probable qu'un projectile a éclaté dans les environs en 1871, pendant le siège. À cette époque, les obus étaient peu meurtriers. Ils ne tuaient à la fois que les deux ou trois étourdis qui ne s'étaient pas mis à l'abri. Après quoi, l'on commémorait l'explosion au moyen d'une enseigne de pâtisserie. Aujourd'hui, il en tombe trop en même temps. Ils sont trop gros pour que l'on puisse encore songer à en tirer un parti publicitaire. Il devrait y avoir actuellement des milliers de pâtisseries de l'obus en France et ailleurs. Les ménagères ne s'y retrouveraient pas. Et la station de métro Obligado a été débaptisée. Elle est devenue Argentine. J'aime mieux Obligado, c'est plus doux à l'oreille. Et puis cela nous rappelait une autre victoire française remportée je ne sais où, ni sur quel ennemi, mais n'importe. On chercherait à nous démoraliser systématiquement que l'on ne s'y prendrait pas autrement. Pendant des années de mon adolescence, ça était ma station. Chaque matin, autour de 8 heures, j'y descendais en courant, tout affolé. J'exerçais alors un métier encore peu galvaudé. J'étais mécanographe dans une maison d'épicerie en gros de la place de la Bastille. J'ai été un des premiers en date des mécanographes français, je puis le dire avec une certaine vanité. Un mécanographe est une dactylo du sexe masculin qui tape des chiffres au lieu de mots. Il y a d'ailleurs à présent beaucoup de mécanographes femmes, mais de mon temps, les hommes étaient plutôt recherchés dans cette branche. J'avais pourtant une collègue, Madame Loupiot, qui était de très grande force. Nous nous livrions à des sortes de courses à qui auraient les plus longues colonnes de nombre en fin de journée. Ces compétitions étaient fortes et chauffantes et en dernier ressort avantageuses pour la maison d'épicerie qui nous employait. Bien que Madame Loupiot fût enceinte, elle était imbattable. La tête baissée, le ventre collé à la machine, elle ne faisait qu'un avec elle. J'entends encore le cliquetis ininterrompu de ses engrenages. Elle semblait prise de frénésie. Cet auto dépassait toujours les miens, par bonheur. L'épicerie traversait une aire florissante. Nous avions assez de chiffres à nous mettre sous la dent. On eût cru que Madame Loupiot les avalait. Cependant, elle grossissait de jour en jour. C'était comme si elle eût voulu nourrir d'avance son enfant de millions. Je préfère aussi l'importante construction de verre opaque et jaune que j'ai dans la tête à la simple balustrade de pierre qui la remplace. Un jaune assez spécial, tournant au vert, ou plus précisément de la couleur des berlingots à l'anis lorsqu'on les retire de la bouche après les avoir assez longuement sucés. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc ce récit de Henri Calais, Les Grandes Largeurs, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.